With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de la présentation de la saison NFL 2022 sur Touchdown Actu, un jour une preview et on enchaîne avec les Dallas Cowboys. À mes côtés pour en parler, Victor Roulier, bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Et Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël.
Salut.
Bon, les Cowboys, c'est évidemment l'affaire de Victor, hein, il connaît bien le dossier. L'an dernier, 12 victoires, 5 défaites, éliminés au premier tour des playoffs par les 49ers. Beaucoup de départs, Amari Cooper, Cedric Wilson, Lyle Collins, Connor Williams, Randy Gregory, notamment, pas énormément d'arrivées, James Washington au poste de receveur, Dante Fowler en défense, Anthony Barr, du côté des kickers, ça a tourné également. Ils ont drafté Tyler Smith sur la ligne offensive, Sam Williams en défense, Jalen Tolbert au poste de receveur notamment, et quelques autres. Est-ce que c'est une équipe diminuée, Victor, ou est-ce que c'est une bonne équipe? J'ai l'impression qu'ils rentrent dans le rang, mais est-ce que c'est juste moi, en fait?
Alors, rentrer dans le rang, non. Diminuer, oui. Je pense qu'en effet, surtout, on y reviendra sur un poste, même deux postes, en fait, puisqu'il y a eu des événements qu'on fait que, donc on va y revenir, mais il y a, oui, diminué, c'est sûr. Par contre, sur le pourquoi ils vont gagner, moi, j'ai axé sur l'attaque et la défense, j'ai axé sur le fait qu'ils ont des playmakers partout. Ils ont un Micah Parsons qui est un phénomène depuis qu'il est arrivé en NFL, qui est en même temps linebacker, en même temps edge rusher, il peut tout faire. Demarcus Lawrence qui est quand même un edge, je veux dire, très, très, très bon. Même en attaque, on a CeeDee Lamb qui est un receveur qui a explosé. On a un duo de coureurs, Pollard, Elliott. C'est quand même bon. Elliott, ok, il déçoit, il n'est peut-être pas le Elliott qu'on aurait espéré, mais enfin, ça reste un bon groupe de joueurs. Dalton Schultz qui a vraiment explosé au poste de tight end. Je trouve que, ok, il y a des trous et on va y revenir et ça peut être inquiétant, mais je rajouterais même Zach Martin. Il y a quand même du talent un peu partout et des playmakers un peu partout. Donc, c'est quand même une équipe qui va vivre et mourir par, à mon avis, la provocation des pertes de balles, les gros jeux. Là. C'est vraiment une équipe qui va être fun à voir jouer, je pense, parce que ça va prendre des points, mais ça va en marquer. Ça va provoquer des pertes de balles, mais ça va en faire aussi. Mais globalement, il y a quand même un talent qui est au-dessus de la moyenne en NFL.
Raphaël, quand il parle comme ça, j'ai l'impression qu'il parle un peu des Rams sur le côté. Il y a une ossature de superstar, tu vois. Et autour, c'est un peu plus incertain et il va falloir trouver comment faire prendre la mayonnaise.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose d'un peu comparable effectivement là-dessus, sur ce côté star power et playmaker avant tout, et puis derrière, bah on colle et on ajuste et on croise un peu les doigts pour que ça clique, on va dire ça comme ça. Je rejoins un peu cette idée-là, même si je suis pas sûr que tous leurs playmakers à eux soient du niveau des playmakers de Los Angeles, mais en tout cas dans l'idée, dans le fil conducteur, ouais, je rejoins. Moi, j'ajouterais aussi en force, et qui correspond aussi un peu au fait que ce schéma, on va dire de playmaker peut fonctionner et aller loin. C'est moi, j'aime beaucoup quand même le duo de coordinateurs offensifs et défensifs du côté de Dallas. Je trouve que Dan Quinn l'an dernier a quand même fait un bon boulot avec ce qu'il avait sous la main. Je trouve que Kellen Moore a fait aussi du bon boulot avec ce qu'il avait sous la main en attaque. Et à mon sens, c'est là où ces deux coordinateurs peuvent avoir vraiment un rôle prépondérant cette saison. C'est comme tu l'as dit, il y a des stars, mais à côté, c'est peut-être un peu faible. Et c'est comment ces coachs vont faire que les mecs un peu faibles autour des stars aient un niveau suffisamment correct pour permettre aux stars d'exprimer tout leur potentiel et d'aller loin. Donc, moi, j'aime bien ce duo de coordinateurs et voilà, ça complète un peu ce côté star power, j'ai envie de dire.
Du star power, des coordinateurs qui font surperformer les joueurs. J'ai l'impression qu'il leur manque plus que Sean McVay, en fait, parce qu'il y a Mike McCarthy en haut de la pyramide, quoi. Ça peut être un problème. le petit truc là où on se perd, quoi. C'est un peu au niveau du coaching, on n'a pas la même chose. Victor, tu l'as dit, bon, les stars, on a fait le tour. Sidney Lamb à 1100 yards, Dalton Schultz à 800, Michael Gallup qui reviendra éventuellement de blessure, Micah Parsons, stress sac, je rappelle un peu les CV hein, des mecs dont tu as parlé. Ils étaient premiers sur les ballons volés l'an dernier, donc tu l'as bien dit, ils vont vivre aussi là-dessus. Ils étaient deuxième défense sur les troisième tentatives, mine de rien, ça aussi, c'était important. Donc, énormément de playmakers. Là-dessus, on est d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va les faire perdre ? Tu as parlé de deux postes très déficients, tu as ménagé le suspense. Maintenant, je veux savoir quels sont ces postes.
Premier poste, c'est receveur. Et ça fait longtemps que les Cowboys n'ont pas eu un problème au niveau des receveurs, mais Lamb est là. Le problème, c'est que Gallup, il est toujours blessé. Il va louper le début, voire une partie de la saison, parce qu'il a subi une grosse blessure en fin de saison. Et derrière, du coup, il n'y a rien. Il y a Jalen Tolbert. Alors, j'aime bien, joli joueur, d'une petite université, etc. Mais enfin, c'est très difficile en première année d'impacter quand tu n'as pas connu ne serait-ce que top niveau universitaire. Donc, à part Sidney Lamb, c'est assez préoccupant. Et le poste qui est devenu vraiment là, le poste que tout le monde regarde, c'est tackle, puisque Tyron Smith s'est blessé. Tyron Smith qui avait déjà loupé quasiment toute la saison 2020, une grosse partie de la saison 2021. Enfin, ça sent malheureusement un peu la fin de carrière pour lui. Grand joueur, un super joueur. Mais du coup, on va dire qu'à l'intérieur, ça va. Il y a McGovern, il y a Baelas, il y a Martin. Bon, ça tient. Et encore, Martin, ils vont peut-être passer en left tackle comme ils ont pu le faire dans le passé. Mais globalement, des tackles, il n'y a plus Collins, il n'y a plus Smith. Donc à gauche, on ne sait pas. Aujourd'hui, ça peut être Josh Bowe, ça peut être Tyler Smith, choisi au premier tour, mais qui est encore très brut, hein, venant de tout ça. À droite, ça sera sûrement un peu la continuité avec Terrence Steele. Mais là encore, ce n'est quand même pas fabuleux. Donc le problème, c'est que si tes deux tackles commencent à être déficients, c'est toute ton attaque qui va partir en vrille. Que ce soit le jeu de course, que ce soit le jeu de passe. Donc, j'ai un peu peur que cette attaque, qui est historiquement le point fort des Cowboys depuis quelques années, il y a un moment, Dak Prescott, aussi talentueux qu'il ne peut l'être, s'il n'a pas d'aide de ses tackles et pas d'aide de ses receveurs, ça va commencer à devenir compliqué.
J'ai vu Raphaël hocher la tête sur les receveurs très, très vite, en mode « ça va, c'est pas les Colts quand même ».
Oui, bon après c'est que mon avis. Hein. Je suis un peu moins inquiet sur le côté receveur, peut-être à tort, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils peuvent s'en sortir un bout de saison avec Sidney Lamb, Tolbert, Schultz au poste de tight end. Gallup revient ensuite. Tony Pollard, mine de rien, le remplaçant un bis, hein, à mon sens, d'Ezekiel Elliott est capable aussi de sortir de la boîte pour faire de la réception comme Ezekiel Elliott d'ailleurs, hein, qu'on a vu. Faire quelques réceptions. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça va capter du ballon. C'est pas une armada, hein, c'est certain. Mais comparé effectivement, non, désolé pour les pauvres receveurs des Colts qu'on s'amuse à attaquer un peu trop peut-être, mais oui, moi j'ai un peu plus de confiance. Par contre, là où je le rejoins, c'est complètement sur la mauvaise nouvelle, Tyron Smith, qui là, oui, fait beaucoup de mal à cette ligne offensive, rajoute que beaucoup d'interrogations et tout d'un coup vient plomber ça. Ouais.
Alors, juste pour les receveurs, moi, je suis plutôt de l'avis de Raphaël. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent jongler avec ça. Il y a quand même Dalton Schultz hein, aussi, qui est un très bon tight end. Donc, en plus, ça rajoute une dimension là-dessus. Après, la ligne offensive, clairement, c'est un problème. Donc, on est clairement... Je suis désolé, on est dans les points faibles, hein, clairement, pour toi. C'est même plus un facteur X, Victor.
Pour moi, c'est un point faible.
Ouais. Je tiens à préciser, jeu au sol diminué, enfin, ligne offensive diminuée égale jeu au sol diminué. Moi, je les avais aussi en point faible pour ça. Ezekiel Elliott. Son total par match depuis le début de sa carrière, alors évidemment, il n'a pas forcément le même nombre de portées, mais c'est quand même assez significatif de la qualité baissante de la ligne de Dallas. En début de carrière, il arrive, il a 108 yards par match. Et au fil de ces saisons, il passe à 98, 95, 84, 65 et 58 yards par match l'an dernier. Et ça ne va pas s'arranger cette année, vu les problèmes sur la ligne éventuellement. Donc voilà.
Heureusement qu'il joue aux Eagles et qu'il leur fout 120 yards à chaque match, parce que sinon, il aurait vraiment des stats catastrophiques.
Éventuellement. Est-ce que là, d'ailleurs, le jeu au sol, c'est un problème des deux côtés? Leur qualité, c'est plutôt les airs ces dernières années. L'an dernier, ils prennent 4,5 yards par course. Ouais. Aussi, Victor.
Oui, c'est vrai que au niveau de la ligne défensive intérieure, notamment, on a beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui, on a quelques joueurs de talent, mais à part Neville Gallimore et encore, qui a fait quand même une saison difficile l'année dernière, les joueurs ont du mal à s'imposer. Donc oui, il y a un trou béant au milieu de cette ligne, et même si il y a Lorenz et Parsons sur les côtés, c'est un peu facile de passer au centre. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont pris Anthony Barr, pour venir vraiment en marteau juste derrière pour venir chasser le running back. Donc c'est pour ça que c'est un choix qui me paraît intelligent, parce que ça vient indirectement compenser une faiblesse. Mais c'est sûr que ça sera un des points à surveiller. Oui.
Raphaël, la défense au sol.
Oui, la défense au sol, moi je me l'étais noté en faiblesse par rapport à ce qu'on a vu en 2021. Après, comme Victor, j'étais intrigué par la venue d'Anthony Barr, qui est un joueur d'expérience qui est peut-être un peu plus en difficulté ces dernières saisons du côté de Minnesota, mais qui peut être relancé par Dan Quinn et qui, lui, pour le coup, apporte sur la course. Donc j'attends de voir. Je me dis, Dan Quinn l'an dernier a amélioré la défense contre la passe. Cette année, il va peut-être un peu faire contre la course. Je sais pas, j'attends de voir. C'est une faiblesse sur le papier à l'heure actuelle, mais je pense que ça peut être un peu mieux que l'an dernier de toute manière. Donc à voir.
Quel est ton facteur X, Victor?
Eh ben, mon facteur X, c'est Trevon Diggs. Parce que c'est de plus en plus difficile de trouver un cornerback numéro 1, et c'est surtout de plus en plus important d'avoir un cornerback numéro 1. Et Trevon Diggs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il divise. Il a été All-Pro, ce qui est quand même une vaste blague, au sens où il a pris 1068 yards, ce qui est le plus haut total de toute la NFL. Mais d'un autre côté, il a fait 11 interceptions. Et mine de rien, donner 11 possessions offensives à ton équipe, c'est quand même loin d'être anodin. Donc, c'est un joueur vraiment, c'est double face, pour ceux qui aiment bien Batman. C'est double face, alors ça dépend de quel côté la pièce tombe. On sait qu'il a les mains pour être un ball hawk, comme on dit, un joueur qui intercepte. Il va falloir qu'il montre qu'il peut vraiment progresser en coverage. Il va vraiment falloir une énorme progression cette année de sa part, parce que si les Cowboys sont pas de cornerback numéro 1, quand il va falloir affronter Terry McLaurin, AJ Brown, Kenny Golladay, le terrible Kenny Golladay. Non, mais quand il va falloir affronter des gros receveurs, ça risque d'être difficile. Donc, vraiment, Trevon Diggs, je pense que la performance et la progression de Trevon Diggs, qui est jeune, hein, faut pas l'oublier, va déterminer la santé de la défense aérienne.
Raphaël, ton facteur X.
Écoute, c'était quasiment ça aussi. J'avais les squads de cornerback à l'image, je m'étais noté à l'image de Trevon Diggs, qui est vraiment un boom or bust, j'ai envie de dire, à quelque part. J'ai du mal à croire qu'il puisse refaire une saison à plus de 10 interceptions. C'est tellement compliqué, les interceptions. Il y a tellement une part de chance de rebond du ballon sur la main, sur un potentiel casque, un potentiel bout de doigt qui dévie la trajectoire, que ça me paraît compliqué qu'il fasse autant d'interceptions. Et s'il fait moins d'interceptions, mais qu'il continue à prendre autant de yards, c'est problématique. Donc voilà, après, j'avais ce groupe de cornerback, parce que je trouve qu'il y a des joueurs avec du potentiel. On l'a pas vu beaucoup l'an dernier, mais Kelvin Joseph a montré sur les peu de snaps qu'il a joué qu'il était très intéressant au poste de cornerback. Donc je pense que cette escouade aérienne est vraiment le facteur X de la saison. Bien entendu personnifié par Trevon Diggs, mais et le facteur X de la saison de Dallas.
Une fois n'est pas coutume, moi je mettrais quand même en facteur X le coaching, parce que pour les coordinateurs, moi je suis assez inquiet de la profondeur d'effectifs en fait de ce groupe. Donc dès que ça va commencer à tomber un peu, va falloir que les coordinateurs soient très bons. Et puis on a quand même un coach qui a appelé une course sans temps mort à 14 secondes de la fin de son match de playoff l'an dernier. Donc t'as beau rentrer en ligne de compte s'ils veulent jouer quelque chose, quoi. S'ils veulent aller loin, puisque c'est quand même l'ambition à chaque fois du côté de Dallas. pas personnellement convaincu qu'il soit vraiment armé pour aller loin cette année, mais voilà, ça peut jouer, en tout cas le coaching de Mike McCarthy. Victor, le pronostic, ben alors attends, il vaut mieux que je te donne le programme avant d'ailleurs, ça va commencer contre les Buccaneers, les Bengals, ensuite Giants, Commanders, Rams, Eagles, Lions, Bears, repos en semaine 9, et ensuite Packers, Vikings, Giants, Colts, Texans, Jaguars, Eagles, Titans et Commanders. Je le trouve plutôt aisé ce calendrier.
De toute façon, les Eagles et les Cowboys, franchement, vu le niveau de la NFC, s'ils sont pas en playoff, c'est un scandale. Parce que ils affrontent donc la NFC Est, ils croisent la NFC Nord et ils croisent la NFC Sud. Il y a un moment quand même, tu peux difficilement faire calendrier plus facile. Ah bah oui, alors oui, les matchs de classement des Cowboys ne sont pas faciles, hein, puisqu'ils ont gagné la division. Donc, c'est sûr qu'ils affrontent…
Ouais, ils ont les Rams, les Bucks.
Ouais. Et Bucks. Donc ça, c'est sûr que les matchs de classement sont pas faciles. Enfin, globalement, il y a quand même largement la place pour gagner des matchs. Donc, je dirais 10 victoires minimum. Et je verrais plutôt 11 victoires, ça me paraît bien. 11-12, allez.
Pareil, moi, j'étais à 11 et quasiment à 11 parce que même si l'équipe a des défauts, comme Victor, je trouve que ce calendrier sur le papier, pour moi, ils en ont au moins 8-9 quasiment. Ouais. Allez, bon, après, c'est la NFL, hein, c'est toujours dur, les petites équipes, rien n'est jamais acquis, tout ça, blablabla. Bla, 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 mais normalement, sur le papier, ils doivent en prendre 9 quasiment en jouant, je ne vais pas dire en claquette, mais voilà quoi.
Moi, je pars à 10 aussi. Et après, je suis en train de regarder le calendrier. Il y a un monde où ils débutent à 0-3. Ce monde où ils se font battre par les Buccaneers de Tom Brady en ouverture, les Bengals derrière, et Daniel Jones et Saquon Barkley qui font le match de leur vie avant de se blesser en semaine 3.
Ouais, ouais. L'an dernier, ils ne battent pas les Buccaneers de mémoire, les Cowboys ?
Non, c'est le match d'ouverture. Ils passent vraiment à.
Ah ouais, j'avais un doute.
Mais c'était un shootout. Dernière seconde. Enfin,
ça s'est joué.
Ah ouais, ouais. Super match. Mais ils passent à deux doigts débattre. C'était vraiment pas loin.
Bon, personne ne veut croire à l'exploit des Giants en semaine 3, alors.
Non.
Ah. Pas tellement.
Vous savez plus rêver, messieurs. Il faut savoir s'émerveiller. S'imaginer que Daniel Jones fait voler le cuir dans les airs comme ça, majestueusement, que Saquon Barkley termine un troisième match sans se péter quelque chose.
Ça, j'y pensais ce matin. C'est la première fois que ça m'est venu en tête. Est-ce que les Giants pourraient pas être une destination pour Garoppolo en cours de saison?
Oh.
Wow. Ils iront chercher à la draft.
Ah ouais,
oui, il paraît que la draft est forte.
La draft est incroyable. La draft est incroyable. Ils vont juste perdre des matchs et attendre.
Ok.
Après, il y a des équipes de bas de tableau qui ne nous surprendraient pas, tu sais, à s'aborder une campagne où ils allaient avoir un très haut choix de draft avec un très bon quarterback en prenant Garoppolo au milieu, tu vois, pour s'assurer de finir à 5 ou 6 victoires. Non, mais oui, c'était pas. Non, mais oui, il paraît que cette draft est très, très fort en quarterback. Et c'est l'occasion de vous dire d'ailleurs que vous le découvrirez au fur et à mesure de l'année avec Victor Roulier et Jean-Michel Boujard tous les vendredis en podcast avec des duels.
Premier article écrit de 6, premier podcast de 9.
Et avec des podcasts qui s'annoncent saignants, je vous le dis, hein, parce que on avait eu des idées et tout, et Victor, il m'a dit en privé, il m'a dit non, c'est pas assez saignant, moi je veux des clashs, je veux de la violence, je veux qu'on s'écharpe avec Jean-Michel et tout, donc ça va être. Voilà, petit teasing, mais ça va être pas mal. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette preview des Dallas Cowboys que vous retrouvez donc aussi à l'écrit sur tdactu.com avec le point de vue d'un autre rédacteur. Les previews écrites donc, et puis tout le reste sur tdactu.com et sur nos réseaux sociaux. Vous avez l'habitude, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous pouvez nous soutenir en laissant des commentaires sur les applis de podcast. Et je vous rappelle que nous sommes le 3 septembre, ce qui veut dire que dans quelques heures, nous nous retrouvons.
Il est encore temps.
Voilà, là, normalement, si vous nous écoutez à la mise en ligne le matin, il est encore temps de filer au Hard Rock Café. Dépêchez-vous, nous allons bientôt commencer. Si vous nous écoutez là, dans le milieu de matinée, en prenant votre petit-déj, parce qu'on est samedi, vous ne nous écoutez peut-être pas sur le chemin du boulot un samedi. Il est encore temps, vous pouvez nous retrouver au Hard Rock Café à partir de 16h, 17h les quiz, 18h l'émission, la 500e en public, et donc à 20h, on mange tous ensemble. Voilà, ça va être un grand moment. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain. Bon, on va l'avouer, elle sera enregistrée un petit peu en avance parce qu'on ne pourra pas mettre en ligne une émission un dimanche matin au lendemain d'une soirée quand même au Hard Rock qui s'annonce exceptionnelle. On se retrouve demain, je crois que ce sera les Buccaneers, si je ne dis pas de bêtises. Allez, bonne fin de journée à tous. Merci, monsieur. À demain. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.